le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani
wa Makara.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue.
Région de migration par excellence, Kay connaît chaque année de nombreux départs, notamment au sein des jeunes à la recherche de l'Eldorado. Certains réussissent à le trouver et aider leur communauté, leur village et le pays. D'autres périssent sur la route migratoire. Comment évolue le phénomène de la migration aujourd'hui dans la région du Kay? Quels sont les enjeux et les risques pour les jeunes et les femmes? Comment dissuader les jeunes à la migration irrégulière au profit de celles régulières? Nous en débattons ce soir dans ce grand dialogue délocalisé à Kay, première région administrative du Mali. Nos invités sont Bandjougou Diawara, président du conseil régional de Kay, Madame Djoul Dessek, migrante de retour et entrepreneur, et Baraka Fofana, journaliste et spécialiste des questions migratoires. À la présentation de ce grand dialogue, Sekou Gadigo, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le grand dialogue.
Bonsoir chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ma première question s'adresse à vous. Monsieur le Président du Conseil Régional de Kay, Bandjougou Diawara, quel est l'état des lieux de la migration irrégulière dans la région de Kay aujourd'hui?
Bonsoir. Je voudrais tout d'abord adresser un salut fraternel à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent en ce mois, et vous remercier de nous donner l'opportunité, en tout cas une fois de plus, pour pouvoir discuter de cette question qui est une question cruciale pour la région de Kay, ne serait-ce qu'en tout cas pour nous, autorités en charge du développement au niveau de la région de Kay. La migration au niveau de la région de Kay, nous pouvons dire que la migration fait partie de l'histoire de la région de Kay. C'est notre identité, la région de Kay, depuis plusieurs générations d'ailleurs. Et autrefois, cette migration était orientée vers les pays voisins, comme la Mauritanie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et après, elle a été dirigée vers l'Europe, notamment la France et d'autres pays européens. Mais aujourd'hui, elle évolue et nous pouvons observer que elle est beaucoup plus diversifiée. Il y a une diversification des destinations, notamment l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada et les pays du Golfe, certains pays du Golfe notamment. Il y a aussi une augmentation de la migration des jeunes. Malheureusement, un phénomène.
Est-ce que c'est elle est plus régulière ou bien irrégulière? Est-ce que ces jeunes la partent de façon régulière?
Non, on ne peut pas dire qu'elle est tout à fait régulière parce que, du moins, nous sommes désolés de le dire, mais la plupart des jeunes qui partent dans des conditions très difficiles, notamment vers les pays de l'Europe. C'est une migration assez irrégulière, parce qu'ils n'empruntent pas le processus, en tout cas les voies les mieux indiquées pour pouvoir le faire.
D'accord, nous allons vous redonner la parole tout de suite. Baraka Fofana, vous, en tout cas, vous intéressez aux questions migratoires, vous êtes très impliqué dans cela, bien que vous soyez journaliste aussi. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le phénomène de la migration irrégulière persiste dans la région du Kay, ou bien il y a une diminution des partants vers les routes migratoires dangereuses?
Ok, merci monsieur Gadjogo et merci à tous les auditeurs. En fait, on peut sans hésiter dire que de plus en plus la migration irrégulière.
Vous approchez le micro.
Voilà, on peut sans hésiter confirmer que la migration est de plus en plus irrégulière dans la région. Parce que comment aller de façon irrégulière? Ça, c'est lorsque les connaissances sont réunies au niveau des ambassades, au niveau des consulats. Mais aujourd'hui, on attribue combien de visas aux gens? Donc tout ça, il y a un verrouillage qui est là à ce niveau pour ceux qui voudraient aller de façon irrégulière. La coopération aussi avec des pays comme l'Espagne peut donner l'opportunité à certains d'aller de façon irrégulière, mais quel est le nombre? Et c'est infime. Mais la majorité des gens qui veulent aller aujourd'hui essayent d'aller à travers les pays voisins, la Mauritanie, l'Algérie, Et c'est dans ces pays-là qu'ils sont exposés à des contraintes énormes.
Est-ce qu'on a une idée du nombre, bien que c'est, puisque c'est de façon irrégulière qu'ils partent, bien que c'est difficile de quantifier, est-ce qu'on a une idée du nombre de jeunes qui partent à la migration chaque année dans la région du Kaï?
Quand on suit tout ce qui se passe depuis le mois de mars 2025, et rien que en prenant ce mois de mai qui vient de passer, la Mauritanie, rien que les personnes qu'ils ont expulsées, c'est le millier, juste pour le mois de mai. Donc, depuis mars 2025 jusqu'à maintenant, on ne fait que recevoir. On a toutes les statistiques qui sont partagées avec les différents acteurs, les conseils régionaux, les autres acteurs qui interviennent sur les questions d'immigration. On voit quand même que maintenant, c'est compliqué parce que la Mauritanie, aussi par rapport à ses partenariats avec l'Europe, donc ça donne à cette pratique d'expulser les Maliens et les non-Maliens. Mais c'est les gens qui l'expulsent, les 99%, sont des Maliens, en tout cas ceux que nous recevons ici. Ça concerne d'autres pays, mais ce qui nous concerne, c'est le cas du Mali. Et malheureusement, ces jeunes-là qui viennent, il y en a qui, quand ils ont l'occasion, ils retournent dans les mois qui suivent. C'est ce qui rend un peu compliqué.
Ok. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres-là, bien qu'on n'est pas assez exhaustif, mais est-ce que vous avez des données beaucoup plus exhaustives par rapport aux partants à la migration à l'extérieur, chaque année?
Non, nous n'avons pas de données statistiques claires là-dessus. D'ailleurs, comme vous le savez, c'est un phénomène, comme je l'ai dit, c'est un phénomène identitaire pour la région de Kaï. Donc, presque tout le monde est candidat à la migration. Même moi, je l'ai été. Donc c'est pour vous dire que c'est culturellement installé chez nous, dans la région de Kaï, en tout cas c'est dans certaines contrées, notamment le milieu Soninké, le milieu Kassonké, le milieu Peul, même si c'est donc pour vous dire que c'est un phénomène assez général au niveau de la région de Kaï. Nous n'avons pas de statistiques précises à ce niveau, mais nous savons que la plupart des jeunes, dès qu'ils ont 15 ans, le réflexe c'est de partir. Et malheureusement, ceci ne se fait pas dans des conditions idéales, dans des bonnes conditions pour qu'ils puissent aller.
Écoute, vous l'avez dit, dans la plupart des jeunes, dès qu'ils ont 15 ans, le réflexe est de partir.
Oui.
Qu'est-ce qui explique cela? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut considérer comme culturel dans la région de Kaï, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui explique cela?
Absolument. Comme vous le savez, la géographie de la région de Kaï fait aussi également que ceci est un phénomène qui persiste, notamment nous sommes une région sahélienne où nous avons connu des sécheresses, des grandes sécheresses dans le temps, et ces sécheresses-là continuent. D'année en année, les cultures ne sont pas, en tout cas la pluviométrie n'est pas bonne. Donc comme c'est une région qui est essentiellement aussi à vocation agro-pastorale, dès que ça donne les activités principales, c'est l'agriculture et l'élevage. Et avec les changements climatiques aujourd'hui qui produisent des effets négatifs sur l'environnement, font que aujourd'hui faire de l'agriculture ou même faire de l'élevage dans la région devient de plus en plus difficile parce que les ressources naturelles deviennent de plus en plus rares. Et en ce moment, les gens n'ont pas d'autre choix que d'aller chercher ailleurs.
D'accord. Madame Djouldesek, vous avez été une migrante, hein, vous êtes de retour au pays maintenant, vous avez une entreprise, vous êtes entrepreneur aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre histoire? Pourquoi et comment vous êtes parti à l'aventure et pourquoi vous avez décidé de revenir aussi?
Ok, bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Gadjigo et merci d'avoir me donné la parole et mes salutations à tous les auditeurs. Bon, en fait, comme on l'a si bien dit, Kaï est une région migratoire. Mm-hmm. Voilà, bon, moi c'est mon papa qui était à l'extérieur, voilà, en Zambie. Donc, moi, je suis née là-bas, comme mes frères et sœurs. Après, quand je suis revenue, j'étais à Libreville, Gabon aussi. voilà, comme migrant, parce que je suis rentrée là-bas clandestinement, j'avais pas de documents.
Au Gabon.
Mm-hmm. Ouais, il faut le souligner aussi que on parle beaucoup d'Europe, les gens font, on voyage clandestinement dans des pays Europe, mais il faut savoir que même en Afrique
aussi,
il y a certains pays pour rentrer là, mm-hmm. c'est un tas de difficultés, donc on est obligé de rentrer clandestinement. Donc,
vous avez passé combien d'années au Gabon?
5 ans.
5 ans.
Oui.
Vous n'avez pas de papier?
Non, moi, j'en avais pas de papier. Comme il y a une pièce qu'on appelle carte de séjour.
Carte de séjour.
Voilà. Moi, je n'avais pas le carte de séjour parce que ça a un coût. Hein. Il faut dire qu'il part de 500 000, plus de 500 000, peut-être presque 1 million même. Voilà. Donc.
En France CFA.
En France CFA. Voilà. Donc. On peut dire qu'au moins, moi, je n'avais pas assez des activités là-bas. J'étais une femme, en tant que femme ménagère. Mm-hmm. Donc, je me limitais seulement à partir au marché. Même en partant au marché, c'est un tas de problèmes parce qu'il y a des contrôleurs partout. Donc, je vivais clandestinement.
Vous étiez seule là?
Non, j'étais avec mon mari que je suis partie rejoindre là-bas.
Okay,
lui, il avait ses documents. Voilà, il s'est créé librement, mais moi, pas du tout.
D'accord, donc vous êtes rentrée avec votre mari au Mali?
Non, je suis rentrée seule.
Pourquoi?
Parce que la vie ne me convenait pas. Mm-hmm. Moi, je suis née pour réussir, mm-hmm. je suis née pour travailler. Mm-hmm. Et la vie que j'avais là-bas, enfermée, ça ne me convenait pas. Okay. Je voulais exploiter mm-hmm. mes compétences.
Mm-hmm. Nous allons vous redonner la parole, vous allez nous parler de ce que vous faites ici comme travail.
D'accord.
Après votre retour. Monsieur Barka Fofana, on sait que Kaï, c'est une zone de migrants. On connaît aussi l'apport des migrants pour dans le développement de la région de Kaï, mais ça a aussi un coût. Est-ce que ces dernières années, est-ce que on a l'impression que les victimes sur les routes migratoires ont connu une baisse ou bien le nombre continue d'augmenter?
Ok, merci M. Gadigo. En fait, on ne peut pas dire que la situation se stabilise. C'est ce qu'on aurait souhaité, mais dans les faits, la jeunesse ambitionne tellement de partir que c'est compliqué. Moi, je suis parti récemment à Bandjougoula, dans le gros village de Yelimane, mm-hmm. mais tous les jeunes que j'ai rencontrés, les 95% avaient déjà fait un tour. Et parmi eux, la moitié comptait encore et repartir. Donc, ils sont dans cette logique-là, dans les villages soniqués, majoritairement, parce que là, les gens ne ils se donnent pas la peine d'apprendre des métiers, ils ne se donnent pas la peine d'étudier jusqu'à un certain niveau. Chacun pense que non, il faut que je parte parce qu'on voit que voilà, les migrants, ils ont réalisé des trucs importants dans les villages, les bâtiments qu'on voit dans les villages, les autres. C'est comme ça, là, la tentation est là. Ce qui fait que ça ne fait qu'augmenter. Même si il y a quand même certaines interventions mm-hmm. qui contribuent à atténuer, mais c'est pas selon c'est ce que nous souhaitons. Mm-hmm. Voilà, donc ça continue. Mm-hmm. Et puis pour avoir aussi une idée des gens, en fait c'est surtout sur les semaines du retour. Quand on les expulse, tout de suite on a la situation, parce que depuis la frontière, ils viennent, on les enregistre. Mais quand ils partent, ils vont de partout. Donc c'est difficile de pouvoir maîtriser. C'était tous ceux qui sont à Kanyaga, ils glissent facilement en Mauritanie ou du Djafounou sans qu'ils puissent être enregistrés. Voilà. Mais maintenant, quand il s'agit de l'expulsion, par exemple, le Mali a demandé à ce qu'on ne balance pas les gens de partout. Le Mali a choisi l'année dernière que tous les migrants maliens qu'on explique, qu'on les amène vers Khabou. À Khabou, on a réuni les conditions, on a mis toutes les efforts, les différents services étaient là, les ONG, et tous nos partenaires, pour que tous ceux qui viennent, qu'on puisse avoir la situation exacte. Mm-hmm. Et malheureusement, ça n'a pas baissé. Mm-hmm.
Monsieur le Président, est-ce qu'on a quand même chaque année, on entend qu'il y a des dizaines de jeunes maliens, sénégalais, en tout cas des Africains au sud du Sahara qui périssent en tentant de traverser la Méditerranée ou bien dans le désert. Est-ce qu'à Kaï, on arrive à avoir des données par rapport aux ressortissants de la région quand il y a ces drames-là?
Non, je peux dire que non, parce qu'on ne peut pas. On a certains renseignements par rapport à ces décès qui surviennent, à ces accidents qui surviennent au cours de leur périple, mais on ne peut pas dire exactement, on ne peut pas dire avec exactitude combien de gens sont morts au cours de cette migration, parce que les gens partent également par diverses voies. Bon, vous le savez, il y a par le désert, il y a également par la Méditerranée. Donc, vous voyez, et là, on n'a pas de service qui peut nous tenir des statistiques par rapport à ça. Mais des fois, on entend, parce qu'avec des survivants, des cas de survivants qui viennent, qui arrivent et qui informent, souvent, quand ils arrivent à destination, ils donnent l'information par rapport à dire que bon, on était tel nombre de personnes, malheureusement, notre pirogue a chaviré, ainsi de suite, il y a eu des décès de nombre. Donc, ceux qu'ils connaissent, généralement, ou d'autres, les gens avec lesquels ils ont
le micro
de la même contrée, donc ils peuvent donner l'information à leur famille. Donc, comme ça, on a quelques chiffres, mais ce n'est pas des chiffres exacts, on ne peut pas se baser sur ce truc-là pour dire, mais nous savons quand même que. C'est un phénomène très important. Mm-hmm. La plupart des décès qui interviennent dans ce cadre-là, c'est important parce qu'il y a pas mal de familles qui restent sans nouvelles de leurs enfants. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ils ne savent pas où ils sont, sincèrement. Et la plupart de ces enfants trouvent que soit ils ont emprunté la route du désert ou ils sont partis par la Méditerranée. Donc, il faut attendre des années pour avoir leurs nouvelles. Et très souvent, ces nouvelles ne viennent jamais.
Ok, vous l'avez dit, le phénomène persiste. Hein. Baraka aussi l'a dit. Voilà, des jeunes qui, même après avoir été expulsés, tentent de repartir encore.
Tout à fait.
Alors, vous avez donné des explications à la pauvreté, les changements climatiques qui font que l'agriculture, l'élevage qui ne marche pas beaucoup. Mais est-ce que vous pouvez donner d'autres explications à cette vraiment volonté de toujours partir à l'aventure?
Je crois qu'il y a le manque de perspective, réellement, pour les jeunes. Parce que quand le chômage étant presque endémique, suivant certains groupes, notamment chez les jeunes, quand on voit qu'on n'a pas de perspective d'avenir, on est obligé d'aller chercher, en tout cas, notre gagne-pain, ou du moins, d'essayer d'aller survivre ailleurs. Il y a ce phénomène. Il y a également des fausses nouvelles que les réseaux sociaux, malheureusement, diffusent aussi par rapport à l'attractivité. C'est sur cela, à l'extérieur, donc, qui font que les gens se disent que l'extérieur est tellement présenté de façon attractive qu'il faudrait que j'y parte pour que je puisse réussir. Donc, il y a ces aspects.
Le micro.
Mais surtout, c'est le manque de perspective, le manque d'emploi, le manque d'opportunités, et ce qui font que généralement les gens ont le réflexe de partir. Et je sais que par rapport à cela aussi, c'est aussi.
Jules Dessek, est-ce que vous partagez cet avis que c'est faute d'opportunités au plan local que les jeunes tentent toujours de partir? Est-ce que vous qui êtes revenu, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'opportunités ici qui puissent permettre aux jeunes de rester?
Je suis d'accord avec Monsieur le Président. Mais il y a des opportunités, mais c'est l'accompagnement qui manque. Voilà. On peut réussir en étant ici à Kay.
Expliquez-nous. Ça veut dire que même si vous avez des idées, vous voulez entreprendre ici, vous n'avez pas l'accompagnement qu'il faut.
Oui.
Accompagnement par de exemple, qui de l'État, des autorités locales?
Ça peut être. Il faut commencer par soi-même d'abord, après la famille, après l'État. Oui. Donc. Par exemple, moi, je peux avoir l'idée, mais il y a un problème aussi. Chaque fois quand on organise des rencontres entre les jeunes qui ont reçu cela ont tendance, c'est vrai, ils parlent de difficultés, mais comme si quand on veut entamer quelque chose, on peut l'entamer à zéro franc. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Disons la vérité. Aujourd'hui, on sait que l'entrepreneuriat, pour commencer quelque chose, il faut avoir au moins un peu de sous, soit de matériel adéquat qu'il faut. Sinon, quelle qu'en soit l'idée de l'entrepreneur que tu as, l'idée de business que tu as, tu fournis, si tu n'as pas l'accompagnement, ça ne sert à rien. Et il y a aussi la société qui décourage. Parfois même, c'est au sommet même de la famille, directement. Et quand vous allez m'excuser, je vais le dire, le terme en bambara, « Ibi yere segenani » ni kokibe ni damna à tétanier.
Oui, donc on dit que c'est peine perdue dès que tu veux entamer une.
Voilà, quand tu écoutes ces gens-là, oui. C'est ma suite, tu ne fais pas attention, tu risques de baisser le bras. Moi, personnellement, c'est ce que je n'écoute pas, même avec ma propre famille. Quand l'idée me tape dans la tête, je sais que je peux avoir. Soit, on est quand même, on n'est jamais perdant. soit à travers ces expériences, si on échoue, on apprend beaucoup de choses. Si on réussit, alhamdoulilah.
Alors, vous, vous faites quoi ici, depuis que vous êtes revenue au Mali?
Moi, je suis polyvalente. Mais aujourd'hui, je suis entrepreneur dans l'agro-business. Moi, je suis agripreneur. J'étais formée en maraîchage. Je suis spécialisée en maraîchage. Je forme même les gens en maraîchage. Mais la maraîchère qui n'a même pas son propre espace pour exploiter. Et ça, c'est dû à d'autres obstacles aussi.
Quels sont ces obstacles-là, par exemple?
Le manque de sites. Parfois, le coût est très élevé. Donc, je me suis reconvertie en agroalimentaire.
D'accord. Comment est-ce que vous avez pu bénéficier de ces formations-là?
J'ai pu bénéficier de ces formations. Il y avait, au début, c'était des formations locales aussi, de la pêche, etc. Mais après, la grande formation même que j'ai eue, c'était une ONG internationale que, voilà, Padre GIZ, que M. Fofana m'avait rapproché, que Djulde, toi, tu n'aimes pas ça. Je dis, mais bien sûr, c'est ça même ma passion. Donc, je m'étais formée pendant 6 mois pour avoir ces différentes expériences. Mais il n'y avait pas l'agroalimentaire, c'était l'agro-silvo-pastoral.
Baraka, est-ce qu'il y a des initiatives locales ou bien des initiatives venant d'ONG internationales ou bien de partenaires internationaux qui puissent permettre aux jeunes de rester et travailler ici aujourd'hui dans la région de Kaï?
Parfaitement. En fait, quand elle parlait de potentialité, le potentiel, il est là. Quand on va parler de Kaï à quelqu'un de Sikasso, Ségou, les gens vont penser que tout est sec ici, alors que ce n'est pas le cas. Nous avons combien de cours d'eau à Kaï? Il faut prendre le fleuve, ça va d'où à où? Le fleuve Sénégal, la Coleminée, le lac Magui, la mare de Doro. On a tellement de potes, même le cycle de Yelmane. Quand tu parles de Yelmane, tu vas à certains endroits de Yelmane où 12 mois sur 12, il y a de l'eau qui descend de la colline. Tu prends la commune de Tabakhara, par exemple, quand on a fait les monographies de communes, on s'est rendu compte que le potentiel, il est là. Mais maintenant, en termes d'acteurs, Djulé, par exemple, a eu la chance d'être formé dans le cadre Padre GIZ, qui était un partenaire du conseil régional. Ils ont donné l'opportunité aux jeunes d'aller se former pendant 6 mois. Une partie ici, une partie au Bénin. Parce qu'au Bénin, il y a une expérience qui est côtoyée par l'ensemble des continents, si on peut s'exprimer ainsi, où les gens, au bout d'un certain nombre de mois, sont à même de développer des activités intéressantes dans le cadre de l'agriculture, l'élevage, la pêche, ainsi de suite. Et maintenant, c'est ce qu'on est en train de développer au niveau... Tous les jeunes qui sont partis au niveau du Bénin, c'est le conseil régional qui l'a organisé avec le Paris GIZ, on a pu accompagner un paquet. Ces jeunes-là, ils sont là, ils sont même organisés en association des jeunes entrepreneurs. Et beaucoup d'entre eux, tu vas leur donner des millions, ils ne vont pas partir en France. C'est pour ceux qui ont eu accès, elle n'a pas accès à la terre, elle est de la ville. Mais pour ceux qui sont des villages, c'est facile, tout est question d'approche. Quand on passe dans les villages, on négocie, on a trouvé des chefs de village, de propriétés terriens qui ont accepté de donner des terres aux jeunes pendant 15-20 ans. C'est ça, c'est la base. On ne va pas investir tant qu'on n'a pas la certitude que les gens vont donner de la terre. À travers la GIZ, il y a eu deux programmes. Il y a eu Procaï. Procaï a pu installer des jeunes en raison de 3 par hectare. Par exemple, un village qui parvient à mobiliser 15 jeunes, et ils aménagent, on te met dans toutes les conditions pour produire. Mais présentement, le conseil régional a un partenaire qui s'appelle Luxidev, l'agence luxembourgeoise de développement. Et on était en train de dépouiller les documents même la semaine dernière, jusqu'au vendredi. Mais Luxidev est en train de former présentement 100 jeunes sur Kaï, 50 en photovoltaïque, 50 en gomme arabique. Et très prochainement, on doit former 750 jeunes de la région dans différentes filières. Et l'approche qu'on est en train de développer, il y a un comité régional qui est piloté par le conseil régional qui introduit le programme dans les localités. Quand l'approche est bonne, quand on est avec des bons interlocuteurs, il n'y a pas d'impôts. Tout ce qui est là, à mon avis, comme sur des blocages, c'est que les gens n'ont pas compris. Mais quand les gens ont la bonne information, ils voient qu'on peut donner l'opportunité à leurs jeunes de réussir ici, les gens vont coopérer.
Vous écoutez Studio Tamani, nous parlons aujourd'hui de migration. Nous sommes dans la région de Kaï. Nos invités sont Monsieur le Président du Conseil Régional de Kaï, Bandjougou Diawara, M. Baraka Fofana. Il est journaliste spécialiste des questions migratoires. Et Mme Djoul de Sec, une migrante de retour aujourd'hui qui évolue dans l'entrepreneuriat. Monsieur le Président, alors il y a des initiatives. Mais pourquoi avec tout cela, et vous l'avez dit, les jeunes, certains jeunes veulent toujours partir. Est-ce qu'il y a suffisamment de sensibilisation, de communication autour de ces opportunités-là aujourd'hui au niveau local?
Je crois qu'en termes de sensibilisation, il y a beaucoup de travail qui a été fait dans ce sens-là, notamment par l'État, par les collectivités territoriales, mais également par la société civile et même les partenaires techniques et financiers. Donc, les zones où cette sensibilisation a été beaucoup plus forte, donc nous constatons que dans ces zones-là, aujourd'hui, il y a moins de départs de jeunes par rapport, dans le cadre de la migration. Parce que ces zones-là ont été fortement sensibilisées. Mais, comme vous le savez, c'est pas la sensibilisation seulement qui ça ne suffit pas. C'est pas suffisant. Il faut donner d'autres opportunités. En tout cas, il faut créer d'autres possibilités, d'autres avantages, pour que les gens puissent davantage, en tout cas, s'intéresser, à s'installer, à rester, à s'insérer dans le tissu économique, que d'avoir toujours ce réflexe-là d'aller à l'extérieur. Donc par rapport à ce truc-là, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a sur le plan la formation professionnelle que l'État fait avec les collectivités territoriales et nous-mêmes en tant que collectivités territoriales, avec certains partenaires techniques dont certains ont été cités par Baraka, notamment la coopération luxembourgeoise. Donc, qui intervient sous l'égide de l'État. Donc, en plus de cela, nous-mêmes, en tant que collectivité territoriale, nous entreprenons, nous avons des partenaires, il y a Luxdev que j'ai cité, mais il y a FIER, FIER 1, FIER 2 aussi.
FIER, c'est
le projet d'insertion des jeunes dans l'économie, dans les zones rurales.
Ok.
Voilà. Donc c'est un projet qui est financé par la Banque mondiale, mais sur demande du Mali, en partenariat avec l'État du Mali.
Okay.
Donc il y a une première phase qui est terminée, il y a une seconde phase qui a débuté, donc qui va se poursuivre.
D'accord. Nous nous acheminons vers la fin de l'émission, il ne nous reste que quelques 4 minutes. Hein, et on va parler des solutions. C'est vrai qu'il y a des initiatives, mais toujours le phénomène persiste. Djoul de Sec, vous en tant que migrante, en tant que mère de famille, selon vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire?
Juste les actes concrets. Il faut installer le jeune comme il le faut. Il ne faut pas accompagner le jeune avec, je ne dis pas que 50, 100 000, c'est peu. Mais pour que la personne puisse bien travailler et que le partenaire aussi puisse être satisfait et dire que j'ai accompagné tant telle personne, il faut vraiment un vrai accompagnement.
Qu'est-ce que vous appelez vrai accompagnement? Est-ce que vous pouvez être plus explicite?
Un vrai accompagnement, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui fait de la maraîchage, la personne qui n'a même pas 25 000 francs, comment la personne peut entamer à cultiver?
D'accord. Baraka, vous partagez l'avis de Djoul de?
Oui, parfaitement. Moi, je suis d'avis qu'il faille quand même un accompagnement digne de ce nom.
Mm-hmm.
Et que ce soit les migrants de retour, parce qu'ils reviennent déjà, qu'on cherche à réinsérer. Et souvent, même, on en parlait même hier, il faudra revoir les kits qu'on leur donne, quelle est la valeur de ces kits-là. Si c'est des petits trucs, tout de suite, ils les revendent pour tenter de repartir. Donc, cela ne peut pas servir d'exemple pour les jeunes qui sont là. Parce qu'il ne faut pas attendre aussi à ce que les gens aillent, qu'ils échouent après pour les accompagner. Non, dès avant même leur départ, il faut les prendre en compte. Souvent, on oublie les ruraux. Il y a plein d'actions qui sont menées au nom de la jeunesse, au nom des potentiels migrants. On vient, on se limite au capital régional, on prend les gens comme ça. C'est ça aussi qu'il faut combattre. Il faut que vraiment les acteurs soient pertinents et que les interventions soient faites de façon coordonnée.
Monsieur le Président, vous partagez toutes ces observations et ces solutions. Sinon, au niveau du Conseil régional, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire aujourd'hui?
J'ai fait évidemment toutes ces solutions-là qui ont été envisagées, non seulement par Mme Sec, mais également par Baraka. Mais que je pourrais aussi ajouter que, effectivement, si nous voulons prendre à bras le corps cette question de migration, il faudrait que nous puissions être capables de créer davantage d'emplois. Et pour créer ces emplois, je pense qu'il est fort possible de pouvoir, cela ne peut pas se faire d'ailleurs, sans renforcer la formation professionnelle. Et cette formation professionnelle, je pense que l'acteur principal, ou du moins des collectivités ou des associations ou d'autres structures, ne peut être que d'abord l'État en premier lieu. Donc il faudrait que l'État s'investisse auprès de ces associations ou des collectivités pour que nous puissions renforcer la formation professionnelle. Il faudrait que nous puissions créer également des centres de métiers, pour que les gens apprennent. Donc, mais en plus de ces centres-là, il faudrait, comme Madame l'a dit, il faudrait que le financement puisse être accessible. Et cela peut permettre à ces jeunes-là d'être occupés, de pouvoir se faire des ressources, de pouvoir se faire quelque chose, que d'être tenté de partir.
Merci pour ces propositions, Monsieur Diawara, président du conseil régional de Kayes, Bandiougou Diawara. Merci à Baraka Fofana également, qui est spécialiste des questions de migration à Kayes, et Madame Djulde Sek, migrante de retour qui évolue dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. On parlait de migration dans la région de Kayes, comprendre le phénomène et les enjeux pour les jeunes et les femmes. Ce grand dialogue a été réalisé avec Mohamedou Niambélé, qui était aux opérations techniques pour la prise de son, et également assisté de Fatih Yatara. Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous, et à la prochaine pour un autre numéro du grand dialogue.